Il y a beaucoup de mal dans le monde, dans la société et aussi en nous, il faut bien le dire. Et on peut donc se demander comment nous pouvons faire pour essayer de lutter efficacement contre le mal. Dans ce cadre, bien sûr, l'Évangile nous donne un certain nombre de pistes de réflexion. Et il y en a une en particulier dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 12 qui me semble particulièrement intéressante. Jésus dit d'abord qu'on ne peut pas lutter contre le mal, mais par le doigt de Dieu. Et ensuite, il donne une sorte de parabole en disant si on chasse le démon d'une maison, et ensuite il va rôder dans les lieux arides, après il revient, il trouve la maison vide, et à ce moment-là, il va chercher cet autre démon pire que lui, il revient et il s'installe dans la maison, et la situation est pire que la précédente. Ces histoires de démons, il faut comprendre que dans l'Évangile, on appelle démons toutes sortes de choses négatives, toutes sortes de choses néfastes, tout ce qui s'oppose au projet créateur de Dieu, c'est-à-dire à la vie, à la paix, à l'amour et à tous les dons que Dieu veut pour nous. Et donc, la méthode de Jésus, vous disais-je, c'est tout d'abord de ne pas lutter contre le mal par le mal. En effet, dit-il, Satan ne peut pas s'opposer à Satan, ça ne marche pas. Mais, dit-il, il faut lutter contre le mal par le doigt de Dieu. Alors ça, c'est intéressant parce que le doigt de Dieu, c'est dans la Bible la puissance créatrice de Dieu, c'est-à-dire c'est Dieu en tant qu'il crée quelque chose de neuf. Et donc cela nous apprend plusieurs choses. D'abord concernant, je dirais, notre propre société. Il est certain que dans la société, on lutte contre la violence par une violence, c'est-à-dire qu'on lutte contre des gens qui veulent tuer les gens en les tuant. On lutte contre des gens armés, par des gens armés, et c'est normal, je dirais, c'est un emploi légitime de la force. Il faut effectivement empêcher physiquement le mal tant que possible, mais l'action immédiate ne suffit pas. Il faut agir dans le fond. Et pour soi-même, la question est la même. Certes, on peut, par rapport au mal que l'on trouve en soi, essayer d'agir par la force, c'est-à-dire en s'arc-boutant contre ses tentations, contre ses mauvais désirs, dirais-je. Mais ces méthodes comportementalistes, de carcan moral qu'on essayerait de s'imposer en soi, finalement sont, je crois, dans le long terme, inefficaces. Parce que ces méthodes de violence, finalement, permettent de gérer l'urgence, mais risquent toujours de faire du mal dans le long terme. En effet, elles peuvent créer du ressentiment, elles peuvent créer des désirs de vengeance, elles peuvent même créer de la haine. Et quant à l'action contre le mal qui est en soi, eh bien, toutes ces méthodes morales, finalement, créent de la culpabilité, du refoulement, qui risquent de faire plus de mal que de bien. On nous dit en effet que le démon est provisoirement lié, donc il s'en va, mais il erre toujours et il sera prêt à revenir par ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est un peu la mode, l'effet boomerang, et c'est-à-dire que le mal peut nous retomber dessus ensuite et faire encore plus de mal. Et cela, c'est une lecture de cette maison balayée et ornée, cela peut être avec d'autant plus de dégâts qu'au passage, on a essayé de se donner une bonne apparence et qu'on essaye de se donner une apparence de sainteté, de perfection et de pureté, et qu'à ce moment-là, le mal peut revenir encore plus gravement. Mais donc, il faut traiter en profondeur ces questions-là ou faire en sorte que le démon ne puisse pas revenir. Dans tous les cas, vous disais-je, je crois que si on ne traite pas sur le long terme le mal par le mal, la seule façon de traiter le mal, c'est de lui opposer autre chose. C'est ce que propose Jésus. Il dit on ne lutte pas contre Satan avec Satan, mais on lutte contre Satan avec le doigt de Dieu. C'est-à-dire il faut lutter contre une chose par son contraire. C'est assez intéressant, il faut y réfléchir. Et donc, dans la société, on ne lutte pas d'une façon durable contre la violence par la violence, on ne lutte pas contre la haine par la haine, on ne lutte pas contre la méchanceté par la méchanceté, mais on lutte en y opposant le contraire. C'est ce que Jésus essaye sans cesse de dire quand il dit « Bénissez vos ennemis, pardonnez à ceux qui vous persécutent, et si on te frappe sur la joue droite, tends la joue gauche. » C'est-à-dire, et en liaison avec cette histoire du doigt de Dieu qui est le doigt créateur, dans toute situation mauvaise, et je ne parle pas que de la société, je parle de notre propre expérience à nous, dans toute situation mauvaise, il faut essayer de lutter contre le mal, par le bien certes, mais surtout en essayant d'inventer quelque chose de neuf, d'inventer quelque chose qui sorte, je dirais, du jeu de ping-pong dans lequel on s'établit en luttant contre le mal. Ce peut être d'ailleurs le sens de ce commandement inapplicable. Si on te frappe sur la joue gauche, tends l'autre. Certains disent que cela peut vouloir dire que si on t'a frappé sur une joue, eh bien, donne de toi un autre visage, c'est-à-dire présente-toi autrement, et donne-toi une autre apparence et sois quelqu'un d'autre que celui qui a été attaqué. Voilà. Et donc de se changer soi-même, parce que je crois que ce n'est que par l'invention de trouver à partir d'une situation mauvaise quelque chose qui est inédit que l'on peut sortir du mal. Et on ne sort jamais d'une situation mauvaise en prétendant soit s'arc-bouter contre le mal, soit essayer de revenir à l'état précédent. On ne peut sortir que par le haut, comme on dit, en trouvant une nouvelle manière d'être, une nouvelle façon de se comporter et une nouvelle façon de vivre. Et puis l'autre danger, c'est que le mal revienne. Alors ça, c'est cette histoire de la maison vide que le démon retrouve et vient investir ensuite, ce qui nous rappelle que il ne faut pas non plus lutter contre le mal en essayant d'enlever le mal, c'est-à-dire qu'on ne peut pas enlever le mal et le remplacer par du vide, mais on ne peut durablement qu'enlever le mal et le remplacer par autre chose. Si on ne remplace pas le mal par autre chose, on a un effet d'aspiration, un effet de vide qui risque d'aggraver les choses. Et je crois en effet que l'on ne peut pas lutter durablement contre le mal par le vide. Certes, dans nos propres vies, on peut faire des efforts considérables pour essayer de chasser le mal, de se dire « il faut que j'enlève ce qui en moi est mauvais, il faut que je lutte contre mes mauvaises tendances, il faut que je lutte contre ma tristesse, il faut que je lutte contre mon égoïsme ». Mais je ne crois pas que ce soit une bonne chose, parce que, comme dit la sagesse populaire, chasser le naturel, il revient au galop. Et je pense effectivement que ce type de positionnement héroïque par rapport à sa propre vie ne peut faire qu'une action de courte durée. Et le mal, la tentation, quand elle revient, trouve le vide, elle va trouver 7 démons pires que lui, et ils viennent dans la maison, parce que la nature a horreur du vide. Alors donc, le seul moyen, c'est de, non pas tellement de chasser le démon, ou alors bon, on le chasse dans un premier temps, mais très vite, il faut remplir sa vie de bien pour que le mal n'ait même plus de place pour être. Et ça, je crois que c'est très vrai. On ne guérit pas des mauvaises choses par le vide, mais par le plein. Et donc, je pense qu'il ne faut pas avoir une conception négative de sa vie ou de la gestion de sa vie qui consisterait à éliminer le mal, à lutter contre les tentations, comme si la sainteté, c'était de ne pas faire ceci, d'éviter cela, de ne pas se comporter de telle ou telle manière. La morale restrictive ne conduit pas à la sainteté et je crois même, d'une certaine façon, est à peu près inefficace. La seule chose qui peut sauver notre vie, c'est un élan positif. Un élan positif. Et c'est vrai d'ailleurs que quand on lit l'Évangile, on s'aperçoit que l'Évangile en lui-même a une vision positive de tout. Il n'y a pas, ou pratiquement pas, de commandement négatif. Et ce que dit Jésus est toujours positif. Il ne dit pas « tu ne tueras pas », mais il dit tu aimeras. Il ne dit pas tu ne haïras pas, mais tu aimeras. Il ne dit pas tu ne te vengeras pas, mais il dit tu pardonneras. Et donc sans cesse, plutôt que d'essayer de verrouiller, de freiner, de bloquer, c'est plutôt de se remplir d'un élan de positivité qui fait en sorte que le mal n'a même plus de place pour exister. C'est pourquoi ce commandement d'amour est absolument essentiel et que, à l'extrême, saint Augustin a dit cette phrase bien connue dans un commentaire d'une des épîtres de Jean, « Aime et fais ce que tu veux ». Parce que si tu aimes, si tu as plein d'amour, alors quelle place y aura-t-il pour la haine, pour la vengeance ou pour le ressentiment? Si vraiment tu travailles à remplir ton cœur d'amour, le mal lui-même n'aura plus de place. Donc oui, aime et fais ce que tu veux, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'y a même plus de morale négative nécessaire. Et cela, si c'est vrai pour nous, je ne peux pas m'empêcher de voir si ça s'applique aussi à ces problèmes d'intégrisme religieux auxquels nous sommes confrontés. Parce qu'en effet, il y a une tentation aujourd'hui, c'est de dire « Ah, il y a des dérives religieuses dangereuses, et donc les religions ne mènent qu'à l'intégrisme, et par conséquent, la seule solution à ça, c'est non aux religions, et seul l'athéisme a toutes les vertus. » Eh bien, je pense que c'est faux. Je pense que c'est faux. Justement parce que on ne lutte pas contre les extrémismes religieux par l'athéisme. Et je ne crois pas que l'on puisse lutter contre les dérives des religions par l'absence de religion. C'est faux parce que, effectivement, à ce moment-là, ces idées perverses, ces idéologies négatives viennent, et si elles trouvent la place vide, la place de l'idéologie vide et vacante, eh bien, elles auront, je dirais, un boulevard pour s'installer. Elles auront un fauteuil vacant pour siéger et pour trôner. Et je ne crois pas que l'on puisse éviter des idéologies mauvaises par le vide ou en les remplaçant par rien. Il faut les remplacer par quelque chose de positif, par quelque chose de neuf et de constructif. Et d'ailleurs, quand on regarde la biographie de la plupart de ceux qui sont devenus des assassins intégristes, on se rend compte que la plupart ont eu une éducation, en fait, totalement athée, ou alors une absence d'éducation religieuse, et qu'il n'y a pas tellement, ou moins qu'on pense, de religieux qui se radicalisent, comme on dit. La plupart sont passés directement de la case rien à la case radicalisation. Pour beaucoup, c'est comme ça que ça s'est passé, effectivement. Parce que je crois que l'athéisme n'est pas la solution contre les dérives des religions. Et ça pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a, je crois, un besoin fondamental religieux dans l'homme. Et si on ne propose pas aux gens ou aux enfants une religion rationnelle et mesurée, eh bien, ils risquent de faire leur marché eux-mêmes dans des endroits nettement moins recommandables. Et ça, c'est le curé d'Ars qui a dit une chose dans ce sens et qui m'a toujours semblé vraie, où le curé d'Ars disait « Supprimer le prêtre » et en peu d'années, ils adoreront les bêtes. C'est-à-dire enlever une religion intelligente, structurée, mesurée et qui fait réfléchir, et rapidement les gens tomberont dans la superstition. C'est-à-dire qu'il y a un besoin fondamental de religion et que par conséquent, eh bien, il vaut mieux donner à manger une nourriture saine aux gens, à nos enfants ou aux gens, plutôt que de les laisser se nourrir de n'importe quoi qu'ils trouveront en chemin. Et puis d'autre part, pour lutter contre les idéologies perverses, les balles ne servent à rien, et la violence physique non plus. Je crois qu'on ne peut lutter contre une idéologie que par quelque chose qui est de même nature, c'est-à-dire par une autre idéologie, en quelque sorte. Et là, je crois que les religions ont un sens, c'est d'instruire les gens, de les enseigner, et d'apprendre à toutes les générations la tolérance, la fraternité et le pardon. Et qui fait ça dans la société? Alors l'école un peu, oui, heureusement qu'elle est là. Mais c'est le travail des religions, c'est ce que nous faisons sans cesse, d'essayer d'apprendre aux enfants une idéologie fondamentale de fraternité, de tolérance, de service, d'ouverture et de paix. Et ça, c'est dès le plus jeune âge qu'il faut enseigner les enfants et leur montrer que dans ce domaine, eh bien, on peut discuter, qu'on peut écouter l'autre, qu'on peut être d'un avis différent et que l'on peut questionner et que la chose est complexe et se refuse à toute simplification. C'est ce que nous faisons en tout cas dans nos catéchismes et écoles bibliques, où justement, loin de penser qu'il faudrait endoctriner les enfants par une sorte de dogme monolithique, on leur ouvre des portes et on les introduit, je dirais, à la diversité intellectuelle et spirituelle que nous avons la chance de vivre dans nos églises ici même. Dans tous les cas, je pense que plutôt que de vouloir supprimer et enlever, il faut remplir par du positif, et que ce positif peut chasser petit à petit le mauvais, et que donc il y a, en tout cas dans nos vies, plus à chercher à mettre du bien que d'enlever le mal. Et là, je reviens à nous-mêmes, nos propres existences, où on se rend compte que, bon, pour moi, j'avoue que la tentation d'assassiner mon prochain est assez faible, et celle de l'intégrisme aussi, mais néanmoins, il y a quand même du mal et des démons qui me menacent, et qui viennent mettre en danger mon propre équilibre. Parce que nous sommes tous pollués par des pensées mauvaises, c'est-à-dire par des pensées négatives. Nous sommes pollués par la crainte, par le jugement, par la culpabilité, par les ressentiments. Et toutes ces pensées négatives qui sont distillées par les événements, par les médias, par toute la vie finalement dans ce monde, eh bien, on ne les traitera pas par des commandements négatifs, en disant « attention, pas de crainte, pas d'amalgame, pas de ceci, pas de racisme, pas de cela, pas de machin ». Je ne crois pas qu'on puisse faire comme ça. Si nous voulons retrouver dans nos vies, je dirais, un équilibre durable, il faut que nous nous remplissions d'esprit positif et que nous remplissions nos vies de confiance, que nous remplissions nos vies d'espérance, de joie, de paix et de fraternité. Et donc nous devons nourrir nos âmes de bonnes choses. Et nous devons ne pas nous laisser nourrir seulement, je dirais, des poisons délétères que nous délivre, ben oui, la vie du monde, qui est une vie effectivement de violence, mais ça ne date pas ni d'aujourd'hui, ni d'hier, ni d'avant-hier. Mais nous ne devons pas laisser nos vies être simplement nourries et construites par des sentiments négatifs, qui sont les seules choses qui intéressent les médias, évidemment. Mais nous devons nourrir nos âmes de bonnes choses. Et c'est ça le devoir, je dirais pour nous, de manger l'Évangile. Parce qu'il y a dans l'Évangile une bonne nourriture. Il y a dans cette prédication du Christ une bonne nouvelle. Il y a là-dedans un pain de vie pour faire passer le poison qu'on nous distille sans cesse. Et donc je dirais que nous devrions, pour notre santé spirituelle et même psychique et même civique, passer autant de temps à lire l'Évangile que l'on en passe à lire le journal ou à regarder les nouvelles à la télévision. Sinon, on risque de se faire manger par le diable. Et je pense que c'est vrai pour nous, et que cette idée d'une nourriture indispensable pour vivre est vraie aussi pour tous ceux qui sont même les plus démunis dans cette société. Parce qu'on voit dans cette société que ceux qui dérivent le plus sont en fait des gens assoiffés, des gens pleins de vide. Et quand on voit leur vie, on se dit « mais c'est affreux, ce sont des gens qui n'ont pas eu d'amour, qui n'ont pas eu de parents, pas d'éducation, pas de diplôme, pas de métier, pas d'avenir, même pas parfois d'attachement national parce qu'ils sont déracinés, rien, que du vide, du vide, du vide et du vide. Oui, la maison est vide, elle est balayée, et le premier démon qui arrive, il s'installe là-dedans, il a beau faire, c'est très facile. » Et donc on peut toujours chasser les démons, mais tant qu'il y a du vide, il y aura cette espèce de force d'aspiration pour les démons les pires. Alors, Nous avons un rôle à jouer, certainement, pour donner à nos enfants, pour faire donner à ceux qui ne sont pas nos enfants, mais que nous côtoyons, leur donner des valeurs, leur donner l'attention qu'il faut, leur donner une capacité à se valoriser. Alors ça n'est pas facile. La société peut fournir des acteurs sociaux, l'école peut travailler à cela, c'est important. Mais là encore, la religion a quelque chose à y faire. Parce que la religion dans la société, elle ne doit pas être là pour interdire, pour empêcher, pour éliminer, pour excommunier. Laissez ça aux lois et à la police. La religion, elle est là pour nourrir, pour remplir l'être de bonnes choses, pour le remplir d'amour, d'espérance, de considération et de confiance. Et je crois que ça, c'est le rôle premier. C'est le rôle premier des religions. Bien sûr, elle peut donner tout cela et donner à chacun ce dont il a besoin pour vivre. Et si on attend que ce soit simplement la société qu'il donne, c'est assez dangereux. Parce qu'en effet, même si l'on est en manque d'amour ou en manque de parents, eh bien moi je vous dis, il y a un Dieu qui est un Dieu Père, qui vous aime inconditionnellement. Comme dit le psaume 27, « Même si mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me reçoit. » L'amour, c'est la base pour vivre, à tout âge. Sans amour, l'individu meurt. C'est la première nourriture dont nous avons besoin. Et nous avons besoin de nous entendre dire que nous sommes aimés inconditionnellement, qu'il y a quelqu'un qui nous aime et que nous pouvons aimer. Et ça, tant mieux si vous avez un père, une mère, un mari, une femme, des enfants, un ami qui vous aime. Mais est-ce toujours le cas? Et en tout cas, nous avons, nous, cette bonne nouvelle de la Bible qui nous rappelle chaque fois que nous mettons le nez dedans qu'il y a un père qui nous aime. Et nous avons une Église qui nous rappelle tous les dimanches et même plus souvent que nous sommes aimés. N'ayez pas peur, vous êtes aimés. Et il faut se nourrir, se renourrir et s'investir de ce message d'amour qui est, je dirais, la première chose que doivent dire ceux qui veulent aider leur prochain et qui est le premier message que l'Église doit délivrer. Ensuite, vous me direz qu'il peut y avoir des problèmes d'intégration. Eh bien oui, le besoin de vivre avec d'autres est essentiel. Et même si je ne suis pas heureux dans mon pays, je peux trouver une communauté. Là encore, le rôle des églises, des communautés. Parce que dans une communauté, on est entre frères et sœurs et on trouve un lieu où on est de la même nationalité, je dirais, et où on est intégré, et où on est reconnu, et où on est aimé. Ensuite, vous pouvez dire aussi que on a besoin, dans nos besoins fondamentaux, de considération. Alors là, c'est peut-être le point faible de l'école. L'éducation nationale peut évidemment apporter l'essentiel de ce qu'il faut pour les enfants de toute origine. Mais le risque de l'école, c'est que quand il y a échec scolaire, eh bien, elle renvoie au contraire une image négative. Et donc, nous sommes aussi toujours menacés par ces images négatives de déconsidération. Parce qu'on vous dit, toi tu n'as pas de diplôme, tu ne feras rien, toi tu es mauvais. Ou encore à tout âge, et certainement parmi nous nombreux, où on vous dit, monsieur, voilà, vous êtes mis à la porte, licencié, vous êtes au chômage. Et le chômeur qui cherche du travail, qui 5-10 fois par semaine s'entend dire, vos diplômes ne valent rien, vous n'êtes pas capable, vous ne pouvez rien faire. Eh bien nous souffrons de ce manque de considération. Et là nous avons besoin... Et c'est encore une des prédications de l'Évangile qui nous dit « Mais mon ami, que tu sois grand, petit, fort, puissant, diplômé ou pas, moi, dit l'Éternel, je te regarde comme un roi et comme un prêtre. » Voilà. C'est-à-dire Dieu nous regarde comme des grands, comme des chefs. Et il a de la considération pour nous. Et il dit « Il n'y a pas même le plus petit parmi vous, peut-être le plus grand dans le royaume des cieux. » Ensuite, je pourrais continuer indéfiniment. Pour vivre, il faut des cadres, il faut des valeurs. Et l'Église donne des cadres. Elle donne un cadre intelligent et aussi ferme, parce que l'idéal de l'Évangile, c'est aussi une ligne de conduite et qui peut permettre de structurer quelqu'un. Et puis, on a aussi besoin de se rendre utile, d'avoir l'impression de pouvoir servir. Eh bien, l'Église aussi, et l'Évangile nous dit, eh bien, vous pouvez dans ce monde être quelqu'un, vous avez un rôle à jouer, vous pouvez faire quelque chose et vous pouvez même être un héros. On a besoin de ça pour changer le monde, pour devenir soldat du Christ et pour être un acteur de paix dans ce monde. Et donc, oui, je crois que l'Évangile, finalement, nous donne toute la nourriture dont nous avons besoin et nous permet, en plus, eh bien, de sublimer tous nos besoins d'une façon positive et créatrice dans ce monde. Et ça, c'est vrai pas seulement pour les enfants perdus, mais c'est vrai aussi pour nous-mêmes. Je vous disais, nous avons besoin d'être nourris, faute de quoi on meurt, faute de quoi on dépérit, ou faute de quoi on devient dangereusement agressif. Il faut être nourri dans toutes les dimensions de notre être. Alors oui, vous disais-je, on peut compter sur les autres, et tant mieux si vous êtes dans des situations sociales, familiales à peu près nourrissantes, mais c'est quand même toujours dangereux, parce que les situations peuvent faire que les autres, momentanément ou sur le long terme, nous fassent du mal. Il se peut que la société ne soit pas en mesure de nous donner ce dont nous avons besoin pour vivre, et même ceux qui nous donnent normalement de l'amour parfois nous blessent ou ne savent pas le donner comme il le faut. Et donc cette nourriture dont nous avons besoin, eh bien, nous pouvons la demander chaque jour à Dieu. C'est ce que nous faisons dans notre Père. Donne-nous, Seigneur, notre pain de ce jour, qu'aujourd'hui j'ai ce qui puisse me nourrir au plus profond de mon âme. Et moi, je crois que la meilleure des nourritures pour notre vie, le meilleur carburant pour mon existence, eh bien, c'est Jésus. Il faut manger le Christ. Et Jésus a dit, mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Parce qu'en lui, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Nous avons l'amour inconditionnel, même quand nous en manquons sur terre ou que ceux qui nous aiment nous blessent. Nous avons en lui le pardon absolu qui nous guérit de la rancœur, du ressentiment, de ceux qui nous en veulent, de ceux qui ne nous pardonnent pas. En Dieu, nous avons le pardon. Nous avons le pardon aussi contre ce poison que distille notre âme, qui est celui de la culpabilité. Eh bien, en Christ, nous avons le pardon qui nous libère. Et en Christ, nous avons la paix et la certitude, la promesse que toujours en lui, nous pourrons trouver la paix du cœur, quelle que soit la situation politique ou sociale. Et en lui, nous avons l'espérance et la confiance, quelles que soient nos craintes et nos angoisses. Et en lui, nous sommes valorisés, parce que lui nous aime et compte sur nous, quel que soit tout ce qui dans ce monde nous dévalorise. En lui, nous avons un projet, une mission, quelque chose à faire, quel que soit notre sentiment parfois d'être inutile dans ce monde. En lui, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Il suffit d'aller le chercher là où il est, c'est-à-dire dans le Christ, dans l'Évangile, dans la parole et dans ce partage de l'Église. N'ayez pas peur, frères et sœurs, car vous avez en Christ un puissant Sauveur, et en lui vous avez tout ce qu'il faut pour vivre heureux, pour vivre en paix, pour vivre aimé, reconnu et sauvé. Amen.